Social à France Télécom, un suicidé sur deux ne sera pas remplacé. Salut.
Oui, bonjour. Voilà, j'ai entendu aux informations qu'hier, un salarié de France Télécom s'était donné la mort en s'immolant. Et je ne sais pas pourquoi, mais je me dis que peut-être il voulait ainsi nous donner un signal, nous dire « Allez-y, il faut y aller, se révolter, lutter contre le système, les patrons, les oligarchies, suivre l'exemple de la Tunisie. » Et voilà, et nous, que fait-on? Dans un film de Bertrand Tavernier, ça commence aujourd'hui, il y avait cette phrase qui me marque un petit peu « Toute la vie aura passé et on n'aura rien fait. » Voilà, je ne sais pas. C'était Pascal Aclamart. À bientôt, au revoir.
Oui, bonjour, c'est Annick de Landelot, donc en Bretagne. Merci Daniel pour ton émission sur Plogoff. Elle rafraîchit la mémoire, mais je voudrais ajouter un oubli important. La lutte populaire a été décisive, mais il faut aussi souligner l'aspect festif de ce combat. Les nombreux chanteurs, musiciens bretons et autres, clowns, je pense à Jean Kergrist et le clown atomique, toujours actifs. Et à la belle chanson qu'est d'ailleurs Plogoff, composée par Denessa Bernot, à cette occasion, et maintes fois reprise depuis. La culture est toujours au service du combat. Depuis, nous avons dansé la gavotte et chanté l'international au son de la cornemuse de Georges Cadoudal, devant les CRS à Quimper, lors de la lutte pour l'hôpital de Carhaix. La culture est une arme de combat et de plus pacifique. Elle fait durer le plaisir lors des moments d'affrontement difficiles, et elle rassemble. C'est important de le noter à toute occasion, Plogoff comme Carhaix. Kélavo, Daniel, continue tes émissions, et Trugares Bras d'or, à Hintagwel.
Alors, encore bravo à la détermination des Bretons, bravo aux habitants de Plogoff, et merci quand même un peu au président Mitterrand qui a conclu d'un trait cette lutte magnifique des pierres contre des fusils. Mais la centrale nucléaire de Plogoff n'est pas la seule à avoir été renvoyée dans les tiroirs face au peuple. Il y a eu en 1973-1974 un référendum d'initiative populaire qui a aussi renvoyé dans ces tiroirs la centrale nucléaire de Verbois sur le Rhône à une dizaine de kilomètres en aval de Genève, en Suisse, à 4 km de la France. Là aussi, ce sont les luttes obstinées des citoyens organisées par le comité contre Verbois nucléaire, dont j'ai été l'un des initiateurs, qui ont eu raison de ce projet de centrale nucléaire par la voie la plus démocratique qui soit, la consultation citoyenne. Je vous dis, la Suisse est un pays formidable. À 800 km de Plogoff, la montagne salue bien la mer. Marc, à Genève.
Bonjour l'équipe de Daniel Mernet, ici c'est Elios de Vernet-les-Bains. Je vous signale que dans les années 80, EDF a construit une centrale solaire. Oui, oui, EDF a bien construit une centrale solaire afin de prouver que le solaire, ça ne fonctionnait pas et ce n'était pas rentable. Elle est abandonnée, elle est au-dessus d'Angoustrine dans les Pyrénées-Orientales. Il serait bon que vous alliez faire un tour par là-haut-bas. En plus, ça oxygénerait vos collègues. Merci.
Bonjour à tous. C'est vraiment une super émission là-bas, si j'y suis. Bien écoutée, quand même, bien écoutée. J'ai fait un changement d'adresse. Je suis allée à la poste hier. Et du coup, tout de suite, au guichet, j'ai dit, ben, je veux pas la formule PAC machin, là. J'ai écouté là-bas, si j'y suis. Et le postier en face, il m'a fait un grand sourire. Et il m'a dit, oui, j'ai le papier ici de la formule toute simple. Voilà, on s'est regardé, on était heureux tous les deux, et puis j'ai mon papier, et grâce à vous, il ne sera pas rouspété, parce que du coup, à son chef, il dira que je suis arrivée, parce que j'avais entendu la voix, si j'y suis. Eh ben, c'est super, il faut y croire qu'on va arriver à changer tout ça. Je vous embrasse tous, salut.
Et nous aussi, on vous embrasse toutes et tous. Merci pour ces messages, surtout ce dernier message qui est particulièrement savoureux. Et qu'est-ce qu'il y avait entre notre amie auditrice et puis le gars derrière le guichet? Ben, il y avait une vitre, il y a une limite, une frontière. Et aujourd'hui, on va parler de la frontière, on va parler des limites, on va parler des murs. Un Schengen en ce moment, oh là là, cette invasion de barbares. et Mamma Litulki. Vous vous souvenez de ça, Mamma Litulki? Et à Lampedusa, quand on était à Lampedusa, c'était la terreur des habitants de Lampedusa. Mamma Litulki, les Turcs qui arrivent, les Sarrasins qui reviennent. Évidemment que les politicards européens, certains, surtout, pas tous, non, mais enfin, ne manquent pas d'exploiter. Le syndrome de l'invasion, les barbares qui arrivent avec le croissant de l'islam entre les dents. Avant, c'était le couteau bolchevique. Maintenant, c'est le croissant. Il y a des gens qui aiment ça, qui exacerbent ce qu'on a de moins beau en nous. Et ce qui arrive aussi aux communautés qui sont... fragilisés, les groupes qui sont fragilisés ont tendance à se replier et à rejeter les autres, c'est tout à fait compréhensible. Qu'est-ce qu'il faut faire contre ça? Ben, c'est que les plus vulnérables ne le soient plus, ou moins en tout cas, moins frustrés, moins humiliés, mais c'est le contraire qui se passe actuellement, puisqu'on exploite au contraire cette tendance au rejet. Les murs servent à ça parfois, mais pas toujours. The world is... « Too small for wall ». On avait relevé cette phrase magnifique. « Le monde est trop petit pour les murs ». C'est superbe. Hein, et on va se balader le long des murs, de chaque côté des murs, de là-bas si j'y suis, dans différents endroits du monde. C'est effectivement très souvent là qu'on se retrouve, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, qui s'échange, qui se trafique d'un côté à l'autre, de la frontière entre la Corée du Nord et la Chine, où nous étions, ou à Mayotte, ou, évidemment, Palestine, Israël, ou sur la frontière mexicaine entre le Mexique et les États-Unis. C'est sur la frontière aujourd'hui que se passe cette heure de là-bas, si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Chers GNG et amis des betteraves du Gâtinais, le repère de là-bas si j'y suis à Tousson en Sud-Seine-et-Marne vous invite ce mercredi 27 avril à partir de 20h15 à venir échanger sur le thème de la laïcité et de son instrumentalisation, notamment lors de la tentative d'un piteux débat dernièrement. Les échanges seront animés et modérés par Rémi, animateur modeste et génial. Ce débat du repère de là-bas si j'y suis se déroulera à la tête des trains, dernier café du village de Tousson, près de Milly-la-Forêt. Soyez les bienvenus de la part de Rémi, Pierrot, Steve et Roxane.
En écoutant Jean-Louis Bourlange sur France Inter ce matin, j'ai compris ce qu'était un politicien antidémocrate. En effet, à la question sur le référendum de 2005 sur le traité européen, il a répondu qu'il n'y aurait jamais dû avoir de référendum sur cette question. On a encore du boulot, Daniel.
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, si j'y suis. The world is too small for war.
Flight number 2. Arriving from New York.
Là-bas si j'y suis, le long de la frontière États-Unis-Mexique, mars 2008.
Ça, c'est un endroit absolument magnifique. Boca Chica. Et c'est d'abord l'odeur, hein, une odeur de mer très très forte. Et une brume magnifique autour de nous. On est à la pointe des États-Unis, à la pointe sud-est des États-Unis. À droite, c'est le Mexique, et à gauche, c'est les États-Unis. Et là, on est sur cette plage magnifique, il y a de la brume. Il y a des gars qui campent, là, on aperçoit une caravane. Il y a des algues, là. Oh, quelle merveille! Une belle vague, hein. Aïe, aïe, aïe! Alors, on ne sait pas jusqu'où. On a traversé tout un paysage très, très plat. On peut dire jusque-là, absolument inhabité. Une bicoque de temps en temps, plus ou moins en loc. Quelques caravanes de gens qui campent, qui viennent passer un moment là. Il faut dire qu'on est en février, hein. Ça doit être sans doute beaucoup plus fréquenté l'été. Mais c'est sublime. Il y a une sorte de brume colorée là autour de nous, c'est magnifique. Alors dis donc, c'est là que se jette le Rio Grande quelque part.
Ouais.
Mais là, on le voit pas. En tous les cas, c'est par là, quoi. C'est quelque part par là, l'embouchure du Rio Grande,
Rio Bravo.
Alias Rio Bravo. The world is too small for wall. The world is too small for wall. C'est ce qu'on peut lire d'un côté du mur. Et de l'autre côté, quelqu'un a écrit ceci. Trop de murs, pas assez de ponts. C'est ainsi. Chacun déplore, chacun tous deux d'accord, mais chacun l'ignore. Car comment faire pour lire de l'autre côté ? Il en faut des efforts, des escalades, des souterrains, des contorsions, des chiens de garde et des chevaux de frise, des miradors, des matons, des radars, des caméras infrarouges, des capteurs, des projecteurs, des trouilles et des patrouilles pour franchir. Franchir. Étant donné un mur, que se passe-t-il derrière ? Voilà ce que dit le mur. Voilà ce que montre le mur. Ce que le mur fait exister, c'est l'autre côté. Avant que le mur ne soit construit, il n'y a pas d'autre côté. Voilà sans doute pourquoi les hommes ont toujours fait des murs. Il n'y a pas qu'ici, Mexique, États-Unis, il n'y a pas que là-bas, Israël, Palestine. Il y a le mur de Berlin, la muraille de Chine, le mur entre les deux Corées, le mur de sable du Sahraoui, les barbelés de Melilla et Ceuta. Il y a les lignes Maginot, les murs de l'Atlantique, mur Adrien, lignes de démarcation, etc., etc. Et ceux qui les construisent perdent toujours. Les murs sont construits avec les barbelés de la haine, le béton de la peur et les pierres du repli. Ils finissent toujours par perdre, mais ça peut durer longtemps avant qu'ils perdent et que s'écroule la baliverne. C'est jusqu'à 16 heures. C'est là-bas si j'y suis. The world is too small for walk.
Es el viento que me manda, que me empuja a la frontera y que borra el camino que detrás desaparece. Me arrastro bajo el cielo y las nubes del invierno. Es el viento que las manda y no hay nadie que las pare. A veces combate despiadado, a veces baile, a veces nada.
Là-bas, si j'y suis, frontière sino-coréenne. Février 1999.
Petit village côté chinois, avec beaucoup de maisons coréennes. Hein. Maisons, jardins, fermes. Là, c'est le printemps, c'est très beau. De l'autre côté, là, à droite, on est très très près, c'est fou. Hein.
On va au bord de l'eau.
On est prêt. Ah, oui, on va voir si on peut aller au bord de l'eau. Mais on est très très près de la rivière. Et de l'autre côté, c'est la Corée du Nord. De temps en temps, on voit passer quelqu'un. Je ne sais pas si c'est des tombes, je crois pas. À moins que ce soit des souches d'arbres. Ou bien des tombes. Mais tout à l'heure, on a vu des tombes nombreuses. Et ça raconterait les morts de la famine quoi qu'on a ces derniers temps.
Et regarde là, de l'autre côté du fleuve, à 200-300 mètres, il y a une allée d'arbres et il y a des gens qui marchent dans le même sens que nous. Là. Ah, regarde. Ouais. Regarde, voilà. Un, deux, trois personnes.
Ouais. C'est vraiment... C'est comme si on regardait des taulards, quoi. C'est fou parce qu'ici, le mur n'est pas tombé. Le mur n'est pas tombé entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et en Corée du Nord, les gens sont toujours enfermés. Il y a un peuple de 22-23 millions de... qui est enfermé. Et alors qui passe un peu par ici. Ici...
C'est là où il y a des fissures dans le mur.
Là, il y a des fissures dans le mur depuis sans doute pas mal de temps.
Regarde, il nous regarde.
Je sais pas si... Ah oui, est-ce qu'ils nous font signe?
Non, non. Non, il faut comme s'ils nous voyaient pas, c'est marrant.
Entends des corbeaux là-bas. Est-ce qu'ils nous voient? On leur fait signe. Mais ils nous répondent pas. Parce qu'ils osent pas, peut-être qu'ils ont pas le droit.
Ouais. Est-ce qu'ils ont peur qu'on les surveille de leur côté? Parce que là, il y a une baraque là-bas.
Ouais.
Et là, il y a une village, regarde de l'autre côté, là.
Ah oui, c'est encore plus près. Oh, c'est fou, hein. Et là, de ce côté-là, du côté chinois, il y a le drapeau rouge, là-bas. La Chine populaire. N'oublions pas que c'est toujours la Chine populaire. Hein.
C'est vraiment des baraques en bois, avec des toits de chaume et des palissades.
Ouais. Du maïs, le bois qu'on entasse pour l'hiver. Regarde le petit pont, là. C'est fou, c'est un pont de bois qui franchit la rivière. Et entre la Chine et la Corée du Nord.
Il y a une porte au milieu du pont, regarde.
Ah ouais, ouais, en fer rouillé. Oh, c'est le pont de la guerre froide.
Oui. Regarde, il y a un camion qui passe là-bas, chargé de gens.
Vieux camion qui fait soviétique, qui fait Mao, qui fait vieilles images des années 60. Avec une quantité de paysans, de travailleurs sur le... On va essayer de leur faire signe.
C'est pas possible qu'ils ne nous voient pas. Ou alors ils tourneraient pas la tête de ce côté-ci.
Alors on est arrêté par une barrière.
Qui délimite toute la zone justement du pont, toute la zone de la frontière.
Est-ce que tu as déjà vu des Occidentaux, des étrangers?
Non, c'est la première fois que je vois des Occidentaux.
Ça te fait peur?
Non, je n'ai pas peur.
Tu imaginais comme ça?
Oui.
On va l'appeler Tang. Et on va écouter son histoire. C'est un homme petit, très petite taille. Effectivement, il n'a jamais vu des gens comme nous. Et il a franchi le fleuve il y a peu de temps. Il va vous raconter son histoire. Mais surtout, écoutez la voix de cet homme qui a l'air vraiment de venir du cœur même de ce qui se passe dans ce pays. Ce cœur blessé, ce cœur étouffé, ce cœur qui bouge encore, mais si lentement. Les villes qu'on a pu voir depuis la Chine sont toutes comme ça, c'est comme la couleur s'en va, comme le sang s'en va. Exsangue, c'est perdre son sang. Et dans la voix de cet homme, il y a ce ralentissement, cette mort qui vient doucement, sous cette couverture, ce couvercle d'indifférence.
Je viens de la ville de Changjin, Hamgyeongbuk-do, de la province Hamgyeong.
Quel âge tu as?
J'ai 19 ans.
19 ans. Et tu as tes parents là-bas?
Mes parents sont morts de maladie.
아버지는 폐암으로 사망되고 어머니는 이 대수술을 한 게 그 수술하고 영양 보충하지 못했어.
Ouais, mon père du cancer de poumon et ma mère après une opération.
아버지는 97년도에 사망되고.
Mon père est mort en 1997
어머니,
et ma mère
98.
En 98. Pour le cas de ma mère, je pense qu'elle a été traitée correctement, mais elle a été mal nourrie. Je pense que c'est pour ça qu'elle est morte.
Elle souffrait de malnutrition.
Oui, c'est ça. J'ai une sœur aînée et une petite sœur. Ma petite sœur est morte il y a un an. C'est à cause de malnutrition. Elle avait
15 ans.
Le témoignage de Tang recoupe beaucoup d'autres témoignages. Ceux qui ont été notés, par exemple, par Médecins Sans Frontières ou par une organisation bouddhiste qui est présente dans cette région et qui a recueilli plus de 1500 témoignages. On voit que les témoignages se recoupent et rendent ce qui est dit là très crédible. On raconte comment les enfants passent leur temps à fouiller la terre à la recherche d'herbes sauvages, d'écorces, de feuilles, de petits animaux et d'insectes pour les bouffer. On fabrique avec ça des bouillons d'herbes sauvages qu'on réduit en sorte de petits pains avec de la poudre obtenue à partir d'écorces pilées et des racines. Et puis aussi, on mange des tiges et des cosses, comme ça. Et tout ça, ça revient dans un certain nombre de témoignages. Cathy Selweger de Caritas a raconté comment le gouvernement tente d'instaurer des substituts alimentaires en utilisant des copeaux de chêne, en faisant de la poudre, de la sure, et ils sont pulvérisés, ajoutés au maïs et au riz pour augmenter les rations. C'est un témoignage qu'elle avait apporté après des indices. C'est dire, c'est des petites indications comme ça, qui disent l'état de ce pays. Quant à la santé publique, l'état des hôpitaux, des témoins affirment avoir vu les installations et la façon dont les opérations ont lieu, les opérations chirurgicales, sans antiseptiques, sans antibiotiques, sans anesthésie, et on a vu des goutte à goutte de fortune bricolées avec des bouteilles de bière. Avec quoi vous êtes parti? Est-ce que vous aviez de la nourriture? Est-ce que vous aviez un peu d'argent?
On n'avait rien sur nous.
C'était au mois de novembre, il faisait froid?
Quand on a franchi le fleuve Tumen, les bordures commençaient à geler. Le milieu n'était pas encore gelé.
Est-ce que tu avais peur d'être pris?
J'avais peur.
Qu'est-ce qui te serait arrivé si tu avais été pris?
Si j'avais été pris, j'aurais été envoyé dans un camp de redressement pendant 3 mois et j'aurais été au travail forcé. Oui, nous avons franchi le fleuve Tumen dans la nuit, entre 1h et 3h du matin. On est arrivé à Namdo et on a frappé les portes partout dans le village, mais personne n'a ouvert la porte. On devait veiller la nuit en plein air.
Il
y avait des gens qui m'ont demandé d'où sommes-nous. Je leur ai répondu, on est venu de Changjin en Corée du Nord et quelqu'un nous a pris. Et donc, ma sœur et moi, on a dormi chez lui. Et le lendemain, ma sœur a disparu. Et cet homme m'a demandé de travailler chez lui.
Tu as eu des nouvelles de ta sœur depuis ?
Non.
Elle a quel âge, ta sœur ?
Elle a 24 ans.
Est-ce que tu savais, est-ce que vous saviez qu'il arrive souvent que des jeunes filles soient enlevées à la frontière, des filles de Corée du Nord qui passent clandestinement ?
Non, elle ne le savait pas, et moi non plus je ne le savais pas, mais c'est après sa disparition que j'ai appris qu'il y avait des vendeurs qui vendent des réfugiés nord-coréennes près de la frontière. Si j'avais les moyens, je pourrais me déplacer pour la retrouver. Mais comme je n'ai pas les moyens, je ne peux pas me déplacer. Et c'est la seule sœur qui reste. Et je l'ai perdue maintenant. Je n'ai qu'à retourner en Corée du Nord, vivre avec mon oncle.
Qu'est-ce que tu fais comme travail alors ? Qu'est-ce que tu as trouvé finalement comme solution ici pour gagner un peu d'argent ?
J'ai fait toutes sortes de travail que les bûcherons de la forêt m'ont demandé de faire. J'ai fait de la lessive, j'ai désherbé.
Tu dors où ?
Oui, il y a un dortoir dans la forêt.
Est-ce que tu es payé ? Tu es payé combien ?
Depuis novembre, je ne suis pas payé.
Pendant tous ces mois où tu étais dans cette exploitation forestière, tu as travaillé et tu n'as pas été payé. Ils ne t'ont pas payé du tout.
Je n'ai même pas pensé à obtenir un salaire parce que pour moi c'est une question de survie. Donc je dors et ils m'ont donné des vêtements, ils m'ont donné de quoi me nourrir. Je pense que ça suffisait. On m'a rien. Je les en veux.
Tu leur en veux ? Pourquoi tu leur en veux ?
C'est parce qu'ils ne m'ont pas traité correctement, parce que je suis coréen. Ils m'insultent très fréquemment. La vie de la forêt est vraiment difficile.
Comment tu vas faire pour rentrer au pays ? Par le fleuve, à la nage, où tu vas attendre l'hiver prochain ?
Pour l'instant, je ne sais pas comment faire. J'ai peur de la police chinoise. Même si je retourne en Corée du Nord, je n'aurai pas les moyens de me nourrir. Et je ne sais vraiment pas comment faire.
Des effets personnels accrochés au barbelé, comme autant de témoins à la fois du drame de la nuit dernière et de la détermination de ceux qui se lancent à l'assaut de la double clôture.
Septembre 2005.
Ils ont pour seuls atouts ces échelles bricolées que les militaires marocains ramassent et leur nombre. Depuis plusieurs semaines, cet ensemble, et au même moment que des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants, se jettent contre la frontière. Une tactique pour déborder les gardes des enclaves de Ceuta et Melilla. Ils viennent d'Afrique subsaharienne, ils ont traversé le Sahara. Ils campent dans les forêts proches des enclaves avec un seul but, poser le pied sur ces petits morceaux d'Europe que sont Ceuta et Melilla.
Voilà, je me retrouve au Mali sans savoir... Je dirai pas pourquoi, mais c'est parce que je suis obligée d'être là.
Là-bas, si j'y suis.
Je suis partie de mon pays, dont je tais le nom, en quête d'un avenir meilleur.
Octobre 2006.
Malheureusement, j'ai été confrontée aux difficultés de la route, à la barrière, la célèbre barrière de Ceuta. J'ai pas pu passer. J'ai été réduite à la misère, pire même. Je me suis retrouvée avec un enfant, une grossesse indésirée parce que j'avais faim. J'avais très faim. J'avais pas de choix. Je voulais poursuivre des études. J'ai essayé vainement de chercher un visa. Cette fois, j'ai pas pu l'obtenir. Alors je me suis dit, je vais tenter une chance. C'est insupportable. Je manquais pourtant pas d'argent. J'en avais suffisamment pour pouvoir me payer un billet d'avion. Je suis secrétaire de direction de formation, j'ai un BTS. Et je voulais aller faire des études en horticulture. L'école n'existant pas dans mon pays, j'ai trouvé une adresse. J'ai même payé la caution pour partir. J'ai passé 11 mois en forêt. Amélia, on voyait l'Eldorado de l'autre côté, l'Espagne.
Ok, il y a la petite qui se réveille un peu. Elle dort paisiblement là.
Elle ignore tout ce qui se passe. Dieu merci qu'elle soit en vie. Elle n'a que 35 jours. Guylaine, c'est le nom de ma tante qui a payé mes études, qui aujourd'hui est décédée aussi. J'ai pas connu mes parents, moi. Elle a tout misé, ma tante, pour moi. J'ai fait le désert de Magna, j'ai fait le désert de Tizawati.
Donc tu as été refoulé par les autorités marocaines dans le désert?
Oui.
Ils savaient que tu étais enceinte?
Bien entendu. C'est pas leur problème, quoi. Il faut quitter le territoire, c'est tout. C'est tout ce qui les intéresse. Et j'ai accouché à Gabriel Touré.
Ici à Bamako?
Oui.
Et qu'est-ce que tu lui souhaites à Guylaine?
Je sais pas. Et sincèrement, je sais pas.
Et toi, tu vas retenter ta chance?
Oui. Et cette fois avec mon enfant. Je préfère mourir que de vivre dans la honte. Je peux plus rentrer. C'est un fardeau de rentrer les mains vides, sans atteindre ses objectifs. On a ruiné tout le monde en partant.
Mesdames et messieurs,
Aminata Traoré,
chers frères et amis,
Forum des migrants à Bamako, octobre 2006.
Il y a un an, s'est déroulé dans les deux enclaves espagnoles de Ceuta et de Melilla, au Maroc, donc en terre africaine, un drame qui, pour nous, a la même signification que d'autres tragédies qui sont commémorées de par le monde. Pour la première fois, la gestion des flux migratoires a été gérée de la manière la plus brutale. Des centaines de jeunes gens et de jeunes femmes partis du Mali, du Sénégal, du Congo, du Cameroun, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, se sont retrouvés à la frontière sud de l'Europe, sans savoir pourquoi. Mais ils savaient tous qu'ils allaient à la recherche d'un emploi et d'une vie digne. Certains ont vécu dans les forêts de manière dramatique. Je crois qu'ils sont mieux placés que moi pour vous en parler. Depuis lors, pour avoir durci davantage les politiques migratoires, les autorités, les pouvoirs publics d'Europe ont pratiquement obligé les jeunes d'Afrique à emprunter des voies de plus en plus risquées. de sources sûres, nous savons aujourd'hui que 4000 personnes ont péri dans leur quête d'Europe. Aujourd'hui, la société civile africaine, européenne, le mouvement social mondial a décidé de rendre hommage à ces hommes et ces femmes de courage et de mérite qui partent tous dans l'intention de revenir un jour. Je voudrais, pour commencer, que nous observions une minute de silence en leur mémoire.
Donc nous sommes ici dans la famille de Fili Dambélé, qui est l'une des victimes maliennes de Ceuta. Il était avec ses trois frères qui ont pris une balle. Et Fili est celui qui a pris une balle au ventre et il est mort aussitôt. Il ne pouvait pas courir avec le corps de Fili qu'il a dû abandonner. Et puis plus tard, on a su que Adama, qui était blessé, et lui il est resté pendant longtemps là-bas. Bon, ils l'ont évacué ici. Tu étais à Ceuta ou Melia?
Un gros comme Melia.
Melia quoi. Il est handicapé, je ne sais pas s'il récupère un peu. Il y a un autre aussi qui a perdu, tu vois, une jambe. La famille d'Amélé est l'une des familles endeuillées quoi. Tu ne peux pas s'empêcher de pleurer chaque fois qu'on vient, c'est pas...
Voici Ceuta, enclave espagnole en territoire marocain. À droite le Maroc, à gauche l'Espagne. Entre les deux, 8 km de barbelés, de caméras, de miradors, la forteresse européenne est bien gardée. Malgré tout, certains réussissent à passer, avec une échelle de fortune. L'Europe, leur a-t-on dit, est un paradis. Peut-être déchanteront-ils eux aussi, mais pour l'instant, le paradis n'a pas de prix.
Le barbelé, voilà l'avenir, voilà notre horizon. Voilà l'horizon de la planète, des barbelés. Des barbelés pour séparer la partie riche du monde de la partie pauvre du monde. On est en train de construire un véritable mur entre les États-Unis et le Mexique. Et nous, en Europe, nous construisons ces murs, là aussi, ces barbelés. Et bien sûr, entre nous, la France, par exemple, et cette misère du monde, il y a des pays que nous soutenons pour faire le boulot à notre place, c'est-à-dire le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, pour ce qui concerne Lampedusa, ou la Libye, dont les soutiens sont assortis à leur efficacité à retenir cette misère noire loin de nos assiettes et de nos centres commerciaux. Les récits, vous en avez sans doute entendu ou vu de ces traversées, là je parle de la traversée vers les Canaries, sont particulièrement atroces, monstrueuses, des scènes auprès desquelles le radeau de la Méduse est une partie de plaisir, sans parler évidemment de tous ceux qui se lancent à traverser le Sahel, le Sahara, pendant des mois, parfois des années, avec des récits absolument terribles, tout ça pour essayer de vivre mieux et d'arriver dans des pays plus prospères.
Alors, ouais. José, toi, le témoignage de ce jeune garçon donc, qui était à Melilla et qui a reçu une balle, toi, tu l'as vécu, mais de l'autre côté de la barrière, parce que tu habites à Melilla.
Sí, efectivamente, por ejemplo, el día 6 de octubre.
Oui, justement, le 6 octobre.
Yo vi como un helicóptero español, el barrio chino de Melilla, una zona que se llama el barrio chino.
Ouais, j'ai vu un hélicoptère espagnol dans le quartier qu'on appelle le quartier chinois à Melilla.
Que desde el lado español iluminaba la parte marroquí.
Qui donc depuis le territoire espagnol éclairait le côté marocain.
Entre las dos vallas había un montón de inmigrantes heridos que estaban, saltaban, se caían, disparaban y habían caían entre las vallas heridos de bala.
Donc entre les deux grillages, donc le grillage espagnol et le grillage marocain, il y avait un grand nombre de migrants qui tombaient des grillages et qui étaient là emprisonnés entre les deux grillages.
Había un griterío enorme, gritos de dolor, gritos de...
Donc on entendait des cris de douleur.
Y en el otro lado, en el lado marroquí, había otro helicóptero.
Et du côté marocain, il y avait un autre hélicoptère.
Desde el cual se oían tiros, se veía pa, 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 pa. El helicóptero español alumbraba el campo. Si
et là, on entendait des tirs d'armes à feu.
Porque los inmigrantes se retiraban. Y el helicóptero español lo iluminaba por el campo marroquí, mientras que los militares marroquíes, desde el helicóptero y desde tierra, les disparaban.
Donc pendant que l'hélicoptère espagnol éclairait les migrants qui essayaient de repartir et de se réfugier dans la forêt, l'hélicoptère marocain leur tirait dessus.
La guardia marroquí anunció que había matado a 6 inmigrantes en la valla.
Donc ce jour-là, les autorités marocaines ont annoncé avoir tué 6 migrants.
Sin embargo, los vecinos del lado marroquí, los vecinos de la zona.
Mais les voisins de cette zone-là.
Sí, ellos decían que el campo de fútbol que tienen.
Ont raconté que le terrain de football.
Estaba completo cubierto de cuerpos, de heridos y cadáveres.
Était couvert d'un bout à l'autre de corps, de blessés ou de morts, on ne sait pas.
Que cuando las ambulancias retiraron esos cuerpos, tuvieron que entrar palas excavadoras para remover la tierra de la sangre que había.
Et quand les ambulances ont évacué les corps, ils ont été obligés de venir avec des tracteurs pour retourner la terre qui était pleine de sang.
Incluso que sus coches particulares y las paredes de sus casas estaban acribilladas a balazos en muchas zonas.
Et dans ce quartier-là, les voitures et les maisons du quartier étaient criblées de balles.
De toda forma, yo la noche anterior, o sea, esa fue de madrugada, pues a las 10 de la noche.
Très tôt le matin, mais la veille, dans
Yo vi dos muertos más en otra zona distinta, en la zona norte.
Esto moi, j'ai vu des morts dans la zone nord de Melilla.
O sea, que no son 6 muertos, por lo menos son 8, y posiblemente se pueda multiplicar ese número por 100 o 200 más.
Donc effectivement, ce n'est pas 6 morts, c'est au moins 8, et je pense qu'on peut le multiplier peut-être par 100.
Et ça, solo en el límite fronterizo.
Et ça, c'est juste dans la zone de la frontière.
Más adentro, Dios sabe.
Plus à l'intérieur des terres, on ne sait pas.
Lava, si es pis. Lava, si es pis.
La Bastille y suit, île d'Anjouan, janvier 2006.
On est sur cette plage avec ces bateaux de pêche à balancier, là, qui sont des bateaux creusés dans des troncs d'arbres, hein, des vieux bateaux rafistolés. Il y a un peu d'ombre quand même, parce qu'il y a un baobab, il y a quelques palmiers. Puis là, il y a les gens du village, il y a les pêcheurs. Et puis là-bas, il y a tous les... Comment on va les appeler, les clandestins, les illégaux, comme on veut. Enfin, en tous les cas, pour l'instant, c'est les habitants d'ici, c'est les habitants d'Anjouan, qui vont partir, qui s'apprêtent à partir, qui attendent. Et puis il y a le bateau, le quassa-quassa, comme ils disent là, qui manœuvre au large. On se demande bien pourquoi. Et on va voir combien de personnes vont monter à bord, mais il faut imaginer une... Combien ça fait de long sur cette barque?
5 mètres de long.
5-6 mètres de long. Et là-dessus, ils vont monter, ça paraît invraisemblable, mais ils peuvent arriver à monter jusqu'à 30 personnes, 40 personnes. Voilà, et c'est tous ces gens qui sont en train d'attendre là-bas de partir.
Et là, ils sont en nombre chinoise à l'autre bout de la plage. Là. Les gars, ils sont en train de faire la queue en attendant de charger dans le bateau. Ils sont pas très chargés, t'as vu, ils ont un minimum avec eux, c'est un petit baluchon.
Oh, il y a 40, là.
Alors voilà, c'est le dernier qui arrive à partir, mais le bateau est déjà chargé à plein. Ouais, tout le monde n'a pas pu monter à bord. Là. Il y en a qui essaient encore des dernières tractations, apparemment.
Il y a des discussions, des engueulades, et peut-être aussi des adieux aussi. Hein. Des gens peut-être qui ont accompagné d'autres et qui se quittent. On n'arrive plus à compter les têtes, là, parce qu'on est trop loin, mais on voit des tas de petits points noirs, et c'est des têtes. Alors, il y a facilement 30 personnes qui vont se lancer dans cette traversée. Il y a des gilets de sauvetage, il y a quelque chose. Il n'y a pas de gilets de sauvetage. Et la plupart des gens qui sont là ne savent pas nager.
Regarde. On ne voit presque plus le bateau maintenant, tellement il s'est enfoncé.
Et voilà, le bateau va partir, coque de noix sur des flots incertains, dans un scintillement, on va les voir peu à peu s'éloigner. Des scènes comme ça, on en voit un peu partout dans le monde. On en voit en Méditerranée, entre la Tunisie et Lampedusa, on en voit partout. On en voyait il n'y a pas si longtemps, et ça continue, je pense, entre Haïti et Cuba, par exemple. Enfin, les boat people, on se souvient de ces... de ces images. Sauf que là, bah, c'est aujourd'hui, puis bah, c'est en France, Mayotte, c'est la France. Et ça ne peut pas tout à fait nous laisser indifférents.
C'est vraiment le, c'est le radeau de la Méduse, là, ce qu'on voit sous nos yeux. C'est le radeau de la Méduse. Ils s'éloignent un peu du bord, ça y est. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont partir ou pas?
Ça, ils partent pour aller se faire exploiter, pour aller se planquer, pour aller raser les murs et travailler pour une bouchée de pain. Mais ça fait marcher l'économie locale de Mayotte.
Ben oui.
À tel point qu'il y a des membres de la, des syndicats agricoles qui demandent qu'on régularise cette main-d'œuvre dont dépend l'économie locale.
Ah là, ça y est, pas. Ça y est, voilà, le bateau est parti. Il est vraiment à ras-bord, on peut dire vraiment à ras-bord. Il y a tous ceux qui restent sur la grève, là, qui ne sont pas partis. Regarde, il y en a bien 15 ou 20 qui ne sont pas partis. Mais à bord, on ne peut pas savoir, on ne peut pas estimer le nombre. Mais d'ici. Ce qu'on voit là est un cercueil flottant. Hein, c'est un cercueil flottant. Au moindre pépin, la moindre vague, le moindre écueil, le moindre rocher, ou alors là, le lagon, hein, la barrière, c'est la mort. Voilà, il s'éloigne d'un scintillement, on ne voit plus rien là, presque plus rien.
Là-bas, si j'y suis.
Andiamo su, che ora, mentre usciamo, poi vediamo.
On peut partir.
Allons-y, allons-y.
Île de Lampedusa.
Là, on va démarrer, on va partir à mer.
Septembre 2008.
Nous, évidemment, là, on est. Là, on est confortablement sur cette vedette, puissante vedette des gardes-côtes de Lampedusa. Mais regarde la côte, là. Et imagine maintenant que tu es au terme de 2, 3, 4, 5, 10 jours de traversée, et que tu aperçois cette terre, et que tu aperçois cette terre qui est, bah, qui est l'Europe, qui est peut-être une chance d'une vie meilleure, quoi.
Déjà, nous, on n'est pas loin de cette côte, donc on la voit grande. Mais quand on parle de Libye, c'est un tout petit point sur une carte, ça fait 20 km carrés au milieu des centaines et des centaines de kilomètres carrés, des milliers et milliers de kilomètres carrés de mer.
Et ce qui est évidemment extraordinaire dans cette histoire, c'est la proximité entre cette île qui est un caillou, hein, qui est un caillou sec, Lampedusa, mais qui est devenue une station de tourisme où les gens viennent se bronzer et s'amuser en vacances, et la proximité entre la station touristique et l'arrivée de ces centaines et centaines et centaines de clandestins, des fois dans des états pitoyables. Et on nous raconte qu'il existe des embarcations qu'on appelle orphelins, orphelines, c'est-à-dire qui n'ont pas été récupérées par les gardes-côtes. Donc c'est des embarcations orphelines. Et il est arrivé un soir, il y avait une fête dans le port là-bas, une grande fête avec feu d'artifice, musique, danse, etc. Et il y a une de ces embarcations orphelines qui est arrivée jusque dans le port. Et là, on imagine ces gens qui viennent du fin fond de l'Éthiopie,
de l'Érythrée,
du Nigeria,
du Burkina,
du Mali, même éventuellement du Sri Lanka, du Pakistan, etc., qui se retrouvent au bout de 2-3 jours de traversée, serrés au point d'avoir des articulations coincées, qui ont vomi, qui ont tripé boyaux, etc., et qui aperçoivent ça. Et on dit qu'ils ont cru que c'était ça vraiment la terre promise. C'est vraiment une terre promise dans laquelle il y a des feux d'artifice, danse, etc. Ils étaient tellement heureux qu'ils se sont mis aussi à taper dans les mains, à danser et à chanter. C'est assez extraordinaire, hein. Porte de Lampedusa, porte d'Europa, un monument pour les immigrants
décédés et dispersés en mer.
C'est un monument aux morts en mer. Ça ressemble un peu à un arc de triomphe raplati. Et c'est assez émouvant ce qu'on voit, parce que c'est les symboles, les objets qui rappellent la migration. Il y a des pieds, il y a des pas, il y a des chapeaux, il y a des téléphones, il y a des mains et une porte. Et là, voilà, on franchit cette porte. Mais il y a du vent aujourd'hui, il y a ce Mistral, c'est du Mistral aussi ici. On est à Lampedusa, mais ça s'appelle aussi le Mistral.
migrants clandestins ont disparu en mer depuis 1988 dans le canal de Sicile. Donc, Roberto Maroni, le ministre de l'Intérieur, décide de transformer le centre d'accueil de Lampedusa en centre d'identification et d'expulsion. C'est-à-dire que Lampedusa n'est plus un lieu de passage, d'accueil, pour ces migrants qui ensuite vont vers la Sicile, sont dirigés vers la Sicile ou vers l'Italie. On les garde là, on les parque là et on les renvoie vers la Libye. Or, le 18 février, il y a cette révolte qui éclate dans le centre et c'est très violent. Les heurts font 40 blessés. Les immigrés mettent le feu au bâtiment, puis ils prennent la poudre d'escampette et gagnent le village, le port, vitrines brisées, packs de bière emportés, une véritable émeute. Et là, on s'attend à ce que les habitants résistent ou se cachent ou allez savoir. Eh bien non, ils se mettent à hurler « Liberta, liberta, liberté pour les migrants ». Alors on essaye de rétablir l'ordre, on envoie des forces de police, l'armée, etc. Mais la situation est impossible, si bien que, sous la pression et les protestations des habitants de l'île de Lampedusa, le centre est redevenu un centre d'accueil. Sauf que là, on fait tout pour que les clandestins, les migrants, n'arrivent plus à Lampedusa. Ils sont dirigés vers la Sicile ou vers Malte, parce qu'il y a encore un conflit entre Lampedusa et Malte, et si bien que ce centre est à peu près désaffecté. Voilà les hommes, les jeunes hommes qu'on y avait rencontrés avec Omeya et Francesco.
Bonjour, d'où tu viens ?
Maroc.
Tu viens du Maroc ? T'es parti il y a combien de temps là-bas ?
12 jours.
Tout s'est bien passé ?
Impossible, je compte me taire.
Il faut pas dire que ça s'est bien passé. Par exemple, en mer, pendant 3 jours, on était perdus, on avait fini les provisions d'eau, on n'avait plus de bouffe. On a été sauvés parce que la garde côtière italienne nous a retrouvés.
Vous êtes resté combien de temps en mer ?
On a passé plus de 3 jours en mer.
Plus de 3 jours en mer ?
Oui.
Et vous étiez combien sur le bateau ?
360.
Combien tu as payé pour la traversée ?
3 millions tunisiens, c'est-à-dire 3 000 dinars, dans les 2 000 euros, un peu moins de 2 000.
Que tu as payé au Maroc ?
Oui.
Non, en Libye, on l'a payé.
Ah, en Libye, mais en Libye. Du Maroc à la Libye, combien tu as payé ?
500 euros.
500 jusqu'à la Libye et ensuite 2 000 pour le bateau ?
Oui, c'est ça.
Entre le Maroc et la Libye, il n'y a pas besoin de visa. Mais donc c'est payé pour le transport, pour le voyage, c'est pas un passeur.
Bonjour, bonjour.
Vous parlez français ?
Un peu, pas beaucoup.
D'où vous êtes ?
Moi, de Maroc, de centre.
Puis quand vous êtes parti de là-bas ?
En tout, un mois. Ah, bien, le trajet, c'est Maroc, Libye, par le désert. Il y a des circuits.
C'est très dur, ça, non ?
Mais lorsqu'on est dans une vie un peu mauvaise ou un peu dure, La dure c'est de ça, c'est moins que la dure de ça.
Ah bon ? Oui. Le désert, c'est moins dur que la vie que tu avais au Maroc ?
Oui. Moi, j'étais étudiant. Je n'ai pas trouvé ma chance là-bas, je n'ai pas trouvé d'emploi. Alors, il faut que je cherche ma vie dans une autre place. Ouais. En plus, je suis né en France.
Où ça ?
À Lyon.
Ah oui ?
J'ai rentré à 7 ans. Et je n'ai pas eu mes papiers, je ne sais pas pourquoi. Alors là, je suis là pour aller en France et là-bas, il faut que je me rende mes papiers. J'en ai marre de la vie là-bas, moi. Je n'ai pas trouvé d'emploi là-bas.
Combien de temps t'as mis pour la traversée en mer ?
30 heures. Ce n'est pas bon. En plus, on n'a rien à manger ni à boire. Ah oui ? On a vu la mort. La première, c'est parce que le bateau était très plein. Le maximum, 200. Mais nous, il a 410. Comment dirais-je ?
Le bateau pouvait le bateau, 200 et vous
200 le maximum. Ah oui, c'est la première, ça. Nous sommes vivants. La deuxième, c'est à cause de la soif et de la faim. Et le soleil est très chaud, alors là.
Qu'est-ce que tu avais comme vêtement?
Juste celui que j'ai apporté, un pantalon, un t-shirt, un spadri.
Il ne faut pas perdre sa casquette.
Hein. Oh non, non. Il va être avec moi jusqu'à la mort. Tous mes vêtements.
Et maintenant, là, tu es content d'être là quand même, non?
Ah oui, hein. Oui.
Donc, quand tu arrives ici, quand les gens qui arrivent jusqu'ici...
Je suis né de nouveau. Lorsqu'on est dans le bateau et je vois le...
Lampedusa.
Oui, qui en sont venus, alors là, je me dis, grâce à Dieu, nous sommes vivants de nouveau.
Voilà, the world is too small for wall, le monde est trop petit pour qu'il y ait des murs. Ça, c'était à Lampedusa en 2009. Aux États-Unis, Mexique, frontière sino-coréenne, Mali, Mayotte, les murs de là-bas, j'y suis, avec Antoine Chao, Francesco Giorgini et Guy Vanctil sur les frontières. Merci à toutes et à tous. À signaler le numéro de mai, c'est l'événement de mai-juin, de Fakir, le numéro 50 qui est sorti avec un dossier précisément sur les douanes. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos, Coy Nguyen et Franck Allerer ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Lebot et Marina Touillez attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Vous l'avez entendu, il est 16h sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Florence Tomaso. Salut.
Bonjour à tous. Les Nations Unies vont se pencher sur la répression en Syrie. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU se réunira vendredi en session spéciale à la demande des États-Unis. Il est très rare que ce Conseil tienne une réunion extraordinaire. En général, celle-ci débouche sur une résolution, ce qui pourrait être le cas pour la Syrie. De leur côté, les Européens ont prévu de réunir tous les ambassadeurs de l'Union européenne vendredi à Bruxelles pour décider d'éventuelles sanctions qui pourraient être dans un premier temps un gel des avoirs syriens, mais aussi une restriction sur les déplacements des représentants et diplomates syriens. Par ailleurs, des dissidents exilés en Turquie ont lancé un appel urgent pour la tenue d'élections en Syrie et l'arrêt de la répression dans le pays. Depuis le début des manifestations, 453 personnes auraient été tuées en Syrie. En Libye, le port de Misrata, théâtre de très violents affrontements depuis plusieurs semaines, serait sécurisé. C'est en tout cas ce qu'affirment les rebelles. Hier, les attaques des forces pro-Kadhafi ont été repoussées à 40 km à l'est après les frappes de l'OTAN et les combats au sol. L'Alliance Atlantique s'apprêterait à installer un représentant à Benghazi, le fief des insurgés, et ce pour nouer des contacts politiques avec l'opposition. Le groupe Servier est frappé par le suicide d'un de ses cadres. L'adjoint au directeur du développement de Biogarant, filiale qui en charge les médicaments génériques des laboratoires Servier, s'est donné la mort en se jetant sous un train le 20 avril dernier dans les Hauts-de-Seine. L'entreprise n'a pas souhaité commenter ce qu'elle qualifie d'affaire privée. Les causes de cet acte désespéré restent à élucider. Il intervient alors que les laboratoires Servier affrontent une tourmente judiciaire liée à l'affaire du Mediator. Un contrôleur aérien a été tué de plusieurs coups de couteau ce matin dans un bâtiment administratif de la tour de contrôle de l'aéroport de Balmulhouse. La victime, âgée d'une trentaine d'années, employée de la DGAC, allait prendre son service. Le parquet de Mulhouse a ouvert une enquête pour homicide volontaire. Pour le moment, aucun suspect n'a été interpellé. Où en est la violence à l'école et plus particulièrement celle perpétrée contre les professeurs? L'Observatoire international de la violence à l'école vient de rendre un rapport dans lequel il révèle que 17% des chefs d'établissement ont porté plainte en 2010 pour des violences verbales. 1 sur 7 a déjà été menacé physiquement et 1 sur 20 l'a été plusieurs fois dans sa carrière. Enfin, contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas des inconnus qui agressent les professeurs, mais dans 41% des cas, ce sont les parents. 33% des insultes verbales sont proférées par les élèves. Enfin, le Front national nationale s'est enfin délestée de son paquebot, son siège historique installé sur les bords de Seine à Saint-Cloud. Le bâtiment a été vendu autour de 10 millions d'euros. C'est un soulagement financier pour le parti criblé de dettes. Ce renflouement va permettre à Marine Le Pen d'aborder la campagne plus sereinement. Le siège du Front National, rappelons-le, est installé à Nanterre aujourd'hui depuis le déménagement en 2008.
Tous les jours,
mais oui, vacances, hein, c'est
à
bien.
Partir de 11h...
Comment vous avez eu cette idée?
Le foot,
ben, je sais
du
pas.
Roi.
Stéphane Bern.
Vous avez bien plombé l'ambiance, là.
Mais non,
pour assister au prochain Fou du Roi, en direct du studio 106, avec Franz-Olivier Gisbert et Martine Nourille, rendez-vous demain jeudi dès 10h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
On va pas y arriver.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
Le Fou du Roi.
Ben oui, oui,
tous
oui.
Les jours sur France Inter, à partir de 11h. France Inter.
La différence.
Vous êtes sur France Inter, il est 16h03, tout de suite, carrefour de l'Odéon, Frédéric L'Odéon. Bonjour.
Bonjour Florence. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. À 16h30, je recevrai le très grand pianiste Philippe Bianconi. Et auparavant, nous allons entendre, comme chaque jour cette semaine, Daniel Barenboim. Et j'ai envie de citer un extrait de son livre, La musique éveille le temps, publié chez Fayard. Ce musicien, grand penseur aussi, a écrit « La musique possède un pouvoir qui va au-delà des mots. Elle a le pouvoir de nous émouvoir et la simple puissance physique du son résonne littéralement dans notre corps tant qu'il dure. Le pouvoir qu'a sur nous la musique a souvent été l'objet d'œuvres d'art littéraire ou plastique, mais il est rarement examiné du point de vue rationnel, physique. Il est difficile de faire la distinction entre la substance de la musique et la perception qu'en a l'auteur. Et l'auditeur lui-même doit faire son choix dans tout cela. C'est sans doute pour cette raison que la musique, depuis l'époque d'Homère, a parfois été présentée comme un danger potentiel pour la santé de l'intellect et même de la volonté. Et oui, on pouvait faiblir devant certaines mélodies. Barenboim continue, elle était capable de provoquer des états d'hallucination dionysiaque, d'excitation, quoi, ou d'inciter Ulysse et tout son équipage à renoncer au but de leur voyage. L'oreille éduquée cultive cependant la faculté de séparer le contenu de la musique des sentiments qu'on a appris à lui associer. Ben nous, on sait que Frédéric Chopin était sous influence quand il a composé son premier concerto. Il était amoureux d'une certaine Constance, une cantatrice, Gladkovska. Il a même écrit qu'il aurait pu se faire renverser dans la rue par une voiture à cheval, tant il était préoccupé par cet amour. Ben évidemment, ce qu'il a écrit découle de cette passion. C'était pas complètement objectif, forcément, et peut-être heureusement.